Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, épisode 48. Puisqu'il semble y avoir des résistances honnêtes et des rébellions légitimes, Aube s'est intéressé dans cet épisode à l'acte de désobéir, que ce soit à un despote absolu ou à une idée corrompue de l'obéissance. Au sommaire, un extrait de Martin Luther King. De multiples façons originales de résister. La liberté d'expression au temps de Badawi. L'autorité, le mouvement anarchiste et les Femmes. Aube monte aux barricades des valeurs humaines, écologiques et collectives tout en levant sa voix dans le haut-parleur de la prise de conscience. Le mot-clé, résistance.
Nous sommes au début de 1963. Je vois un jeune noir assis sur le perron d'un immeuble de Harlem, infesté de vermine. L'odeur aigre des immondices emplit le vestibule. Son existence quotidienne se déroule parmi les ivrognes, les chômeurs et les drogués. Il fréquente une école où les élèves sont presque tous des Noirs et quelques-uns des Portoricains. Son père est chômeur et sa mère est bonne à tout faire dans une famille de Long Island. Je vois une jeune fille noire assise sur le perron presque en ruine d'une maison de Birmingham, qu'on pourrait qualifier de cabane. Les murs ont sérieusement besoin d'un coup de peinture et le toit menace de s'effondrer. Une demi-douzaine de petits-enfants, plus ou moins vêtus, jouent autour de la maison. La jeune fille est obligée de remplacer leur mère, elle ne peut plus aller à l'école de son quartier, car sa mère vient de mourir dans un accident de voiture. Les voisins prétendent que si l'ambulance n'avait pas tant tardé à venir, on aurait pu la sauver. Le père de la jeune fille est chasseur dans un grand magasin du quartier blanc. Il sera toujours chasseur. Car dans ce magasin, un noir ne peut espérer de promotion. On accepte de le servir à tous les comptoirs, sauf à celui qui vend des sandwichs et des boissons. Ce garçon et cette jeune fille, séparés par des milliers de kilomètres, se posent les mêmes questions. Pourquoi la misère rend-elle constamment les noirs? Leurs ancêtres ont-ils gravement offensé la nation au cours d'un lointain passé? Et est-ce pour cela que la race noire doit subir maintenant le châtiment? Ont-ils failli dans leur devoir de patriotes, trahi leur pays et renié leur citoyenneté? Ont-ils refusé de défendre leur pays contre une attaque ennemie? Les livres d'école de Harlem et de Birmingham ne racontent pas toute l'histoire. Mais ce garçon et cette fille connaissent une partie de ce qui a été censuré par les auteurs et par les ministères de l'Éducation. Ils savent que les Noirs étaient avec George Washington à Valley Forge. Ils savent que le premier Américain qui donna son sang au cours de la Révolution qui libéra son pays de la domination britannique fut un marin noir du nom de Crispus Attucks. À l'école du dimanche, le jeune garçon a appris qu'il y avait un noir nommé Benjamin Banneker parmi ceux qui firent les plans de la capitale, Washington. Jadis, la jeune fille a entendu un orateur raconter à son école comment, pendant 200 ans, le peuple noir ramené sur cette terre enchaînée dans les cales des négriers a asséché les marais, construit les maisons, fait la fortune du coton et contribué, sans salaire et à coup de fouet, à faire sortir ce pays de l'obscurité coloniale pour l'amener à jouer un rôle prépondérant dans le commerce international. Les Noirs ont fait plus que leur part. Partout où le travail était dur, sale et dangereux, dans les mines, les docks et les fonderies. Les pâles livres d'histoire de Harlem et de Birmingham racontaient comment le pays avait vaincu l'esclavage. Abraham Lincoln avait signé un document qui devait devenir célèbre, la proclamation d'émancipation. La guerre avait été gagnée, mais elle n'avait pas abouti à une paix juste. L'égalité n'existait toujours pas, elle était en retard d'un siècle. Ce garçon et cette fille ne connaissent pas seulement l'histoire, ils sont également au courant de l'actualité. Ils savent que les nations africaines se sont libérées des chaînes du colonialisme. Ils savent que l'uniforme de la marine des États-Unis ne suffirait pas à empêcher un descendant de Crispus Attucks d'être mis à la porte de certains restaurants, très sélects, dans certains quartiers, très sélects de n'importe quelle ville du Sud. Ils savent que les Noirs de la capitale vivent dans des ghettos et ne peuvent pas toujours occuper l'emploi pour lequel ils sont qualifiés. Ils savent que les ségrégationnistes ont défié la Cour suprême et que les gouverneurs sudistes ont voulu s'interposer entre le peuple et la principale juridiction du pays. Ils savent que les avocats ont gagné de grandes victoires devant les tribunaux, mais qu'elles n'ont eu aucun effet dans la réalité. Ils ont vu à la télévision, ils ont entendu à la radio, ils ont lu dans les journaux qu'on fêtait cette année le centenaire de leur liberté. Mais comme la liberté est triste, comme elle est dérisoire quand, au cours de leur brève existence, ce garçon et cette fille ont pu voir les bus cesser de fonctionner à Montgomery, les manifestants se faire emprisonner et rouer de coups, les champions de la liberté se faire brutaliser et injurier, les chiens des policiers de Birmingham montrer les dents. Et quand, à Brooklyn, certains emplois du bâtiment sont exclusivement réservés aux Blancs. Nous sommes en été 1963. L'émancipation est-elle un fait? La liberté est-elle une force? Le garçon de Harlem s'est levé. La fille de Birmingham s'est dressée. Tous deux, séparés par des milliers de kilomètres, se sont redressés et ont levé les yeux vers le ciel. Par-delà les distances, ils ont joint leurs mains et se sont mis en marche d'un pas ferme et décidé. Grâce à eux, la nation la plus riche et la plus puissante du monde a été ébranlée.
C'était un texte de Martin Luther King, écrit en juin 1964 à Atlanta, en Géorgie. Narration et adaptation d'Elisabeth Daigle.
Résister, c'est protester et revendiquer d'autres manières de faire. C'est aller à contre-courant des intérêts particuliers et se battre pour des valeurs plus grandes que soi, viser le bien-être d'un collectif. Bon, alors dit comme ça, c'est glorieux, mais dans les faits, nos pancartes et nos carrés rouges ont fait long feu. Désormais, pour être remarqué tout en étant respecté, on doit être inventif et créatif. Bloquer des ponts ne suffit plus, il faut désormais les construire. Au travers d'une résistance pacifique et d'actions artistiques ou de blocages collectifs, des manifestations attirent le regard de la population moins conscientisée, réveillant parfois les intérêts pour l'investissement citoyen. Le phénomène Occupy et plus récemment Nuit debout mettent en évidence le souhait de la population de s'investir dans la politique d'une autre manière. Alors faisons un petit tour des types d'actions les plus remarquables et les plus inspirants de cette dernière année. En juin 2015 à Ankara en Turquie, une manifestation contre la violence faite aux femmes en réaction au viol et à la mort d'une étudiante de 20 ans avait lieu. Les manifestants et manifestantes portaient sur la moitié du visage la moitié du portrait d'une femme ayant été victime de violence. En juin 2015, avait aussi lieu à Pamplune, en Espagne, une manifestation d'un autre genre. Chaque année, on lâche dans la ville des taureaux qui courent dans les rues et ensuite finiront dans les arènes pour la corrida. Des activistes de la cause animale se sont donc peints en rouge et allongés dans la rue afin de dénoncer les mauvais traitements faits aux taureaux. Ce genre de manifestation est d'ailleurs souvent adopté pour demander la fin des corridas. En décembre 2015, alors que la COP21 battait son plein à Paris, Greenpeace a organisé sur les Champs-Élysées un immense lâcher de peinture jaune, je précise lavable à l'eau et biodégradable, la place étant construite en étoiles, le résultat donnait un immense soleil jaune. Le but, encore une fois, était d'attirer l'attention sur le réchauffement climatique et de mobiliser un grand nombre de personnes qui ont déversé de la peinture à pied, en vélo ou en voiture. En novembre 2015, alors que Paris se remettait des attentats, l'état d'urgence a interdit les réunions dans l'espace public. Afin de marquer l'ouverture des négociations de la COP21, des milliers de manifestants ont déposé leurs chaussures sur la place de la République à Paris et marqué ainsi leur soutien en faveur des mesures destinées à diminuer le réchauffement climatique. On pouvait même compter parmi ces paires de chaussures celles du pape François et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. En novembre 2015, un barrage cédait au Brésil. Des régions entières étaient inondées de boues toxiques, tuant la plupart des poissons vivant dans cette rivière et réduisant à presque rien les moyens de subsistance des villages attenants et causant une catastrophe écologique sans précédent dans l'histoire du pays. Des manifestants se sont donc présentés au quartier général de l'entreprise minière possédant le barrage, Vale, et se sont recouverts de boue en s'allongeant par terre. En décembre 2015, alors que la Slovénie bloquait sa frontière avec la Croatie afin d'empêcher la venue de milliers de migrants syriens, des manifestants se sont présentés à la frontière afin de serrer la main des migrants au travers des barbelés. D'autres ont décoré les barbelés et certains ont même joué au volley-ball avec les migrants en travers de la barrière. Un événement récent a eu lieu à plusieurs endroits dans le monde en mai 2016, s'opposant à l'industrie pétrolière et aux exploitations des sous-sols en général. Il s'agissait de Break Free, organisé par Greenpeace, qui avait lieu sur 6 continents en même temps, entre le 6 et le 15 mai. Alors au Canada, c'était à Vancouver que ça se passait, avec bien sûr des gens dans la rue, mais aussi une armada de kayaks qui ont bloqué l'accès au terminal d'un énorme pipeline. Les communautés autochtones étaient également aux premières loges de ces manifestations. Plus proche de nous, nous pourrions citer les différents regroupements et comités qui s'inventent petit à petit au sein des réunions de Nuit Debout. Deux exemples parmi d'autres. Imaginez un regroupement énorme de 350 musiciens qui jouent ensemble sur la place de la République à Paris. Ou alors un groupe de personnes qui procèdent à la réécriture d'une constitution. Tous ces mouvements extrêmement créatifs et positifs font intervenir des citoyens qui réapprennent à occuper l'espace public tout en appelant les non-mobilisés à les rejoindre. Il s'agit de forces très constructives qui appellent à l'engagement. C'est en occupant l'espace d'une autre manière que les citoyens réinventent une démocratie réelle et transforment le visage de la politique. Les causes d'engagement sont nombreuses et les manières de les représenter dans l'espace public innombrables. Alors, qu'attendez-vous ?
Texte et narration d'Aurélie Superchico.
Salut à vous les partisans, salut à toi chaudier allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Chotokan, salut à toi peuple Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les morocons, salut à toi le yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le salvador, salut à toi le monodoy, salut à toi le chinois, salut à toi le zaïrois, salut à toi l'espagnol, salut à toi le ravachol, salut à toi le hongrois, salut à toi l'iroquois, salut aussi à tous les gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles.
après Amnesty et Le Pen, de poètes, essayistes et nouvellistes, aujourd'hui même, dans le monde entier, encore 1000 écrivains sont emprisonnés ou persécutés pour le fruit de leurs pensées résumées via leurs plumes affûtées. Plusieurs pays répriment durement la libre expression, parfois condamnés à mort, d'autres fois 10 ans de prison pour un seul poème jugé trop subversif, célébrant simplement le printemps en vers allégorique, en métaphore subtile d'un possible renouveau. Pour quelques mots de trop, un article, une phrase, un seul vers peut être jugé indécent, et la mort, même à 20 ans, peut attendre au tournant. Afghans, Algériens, Chinois, Cubains, Qataris, Russes, Turcs, Saoudiens, salut Badawi, condamnés pour leurs propos séditieux, ces écrivains, poètes ou blogueurs trop audacieux, courte liste non exhaustive de témoins incisifs de leur réalité, de leur époque, sauvagement assassinés ou emprisonnés durant des décennies pour leurs écrits trop dangereux pour l'intérêt supérieur. Tous ces êtres comme nous sont poussés de l'intérieur à résumer leurs pensées, la partager oralement ou par écrit, mais non sans risque, surtout quand ils y ajoutent indignation, émotion. Mais à quoi sert le poète s'il n'est plus veilleur, éveilleur et un peu prophète ? De payer le fruit de son travail, sa réflexion et son temps, de sa vie, de son sang, de réclusion est barbare, immoral et inacceptable. Nous sommes au 21e siècle, pas au Moyen-Âge, que diable ! Tous nous avons faim et soif de toutes les libertés du monde, en minorité écartelée, fractionnée, souvent isolée. Nous ne supportons aucune barrière, hormis notre bon sens de la conservation. Mais trop sensibles, nous oscillons constamment entre fatalité, espoir et désespérance. En attendant, même ici, nous recueillons à grand-peine des miettes de considération du peuple aveuglé de dettes, de soucis, de consommation effrénée, du pain et des jeux pour animer les gueux. Nos chefs et masses médias naviguent entre manipulation, désinformation, ordre policier et paranoïa très payante. Oui, mais nous, blancs d'Occident qui fûmes longtemps des brigands, pillant l'Afrique, l'Amérique et l'Orient, d'êtres humains aux ressources de tout type, que leur apporter des hermets qui ne soient monnayés au prix du sang, de la sueur ou des dollars sonnants, et d'une certaine idée de la démocratie, des dictats capitalistes hégémoniques pseudo-libéraux. Les plus beaux idéaux sont morts, mais l'espoir palpite encore, car la nature, comme la vie vivace, est très puissante. Donc continuons à pourchasser l'espérance avec diligence, avec une détermination rageuse mais non aveugle. Exercer sa liberté, c'est aussi ranimer une langue moribonde. Alsacien, Corse, Occitan, Innu, Algonquin. Tentons toujours de revivifier la nôtre, le français résonnant seulement désormais chez 1% des foyers nord-américains. Les carences de rêve en nous sont diluées dans l'appauvrissement des mots et des idées et tuent l'espoir innommé de nos incertitudes en dérive. Nous n'avons pas d'autre guide que les yeux des mots des trépassés, sinon les vôtres, les nôtres. Toutefois, au Québec aussi, les poètes et leurs tribunes sont de plus en plus nombreux, surtout chez les jeunes, Dieu merci. Nous avons encore des idées, de l'énergie, de l'encre à répandre et des paroles percutantes à semer. À défaut de pain bio sur la planche, pour contaminer positivement les esprits assoupis, car l'adversité souvent fait vivre et écrire. Continuons, parlons, déclamons.
Texte et narration, Danny Schneider.
Sommes-nous capables d'inventer un autre modèle de société qui ne soit ni prophétique au sens politique et idéologique, c'est-à-dire totalitaire, ni conforme au modèle libéral, dans le fond, est largement aussi matérialiste, si ce n'est plus que le modèle marxiste? Voilà la question. Alors, les écologistes ont très bien compris qu'il leur fallait être politique, mais pourquoi vont-ils s'inscrire dans leur vieux modèle? Il faut inventer. Le livre de Sarah Hawke, en gros sur l'ancien modèle Wicca, c'est-à-dire sur la façon dont les femmes peuvent se prendre en main en renouant avec le mouvement des sorcières, trouvant un autre rapport à la vie, à la terre. Là, on voit se forger un modèle qui à la fois renoue avec le passé et tente de trouver des solutions modernes en s'appuyant sur un ensemble de traditions et qui sort franchement du modèle capitaliste. C'est un modèle qui fonctionne par réseau, mais en se posant la question cruciale du politique, comment à la fois bâtir du collectif en respectant la liberté de chacun? Comment concilier liberté et sacré? Et comment concilier liberté individuelle et autorité? Car une société ne peut tenir sans autorité. Mais comment retrouver le sens profond de l'autorité, au sens latin du verbe ogeo, non pas ce qui empêche, mais ce qui augmente? On l'a oublié, mais l'autoritas latine qui a donné aussi l'auteur, c'est celui qui augmente le bien public parce qu'il est revêtu d'une légitimité. Et ça repose au fond sur une conception sacrée du pouvoir. Cette conception faisait que l'autorité avait beaucoup plus de devoirs que de droits.
Un texte tiré du jeu du tarot. Narration, Marie-Claude Journeau.
We got the gimp. I think the gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you?
Le mot anarchisme vient du grec anarchia, qui pourrait se traduire par absence de commandement. Le premier inspirateur du mouvement politique anarchiste fut le français Pierre-Joseph Proudhon. Dès 1840, dans son ouvrage Qu'est-ce que la propriété, il propose un contrat entre les hommes pour ne plus avoir besoin de chef. Il refuse les solutions autoritaires des communistes, ce qui lui vaut l'hospitalité de Karl Marx. Le russe Bakounine pense, lui, que le passage à cette forme plus évoluée de société se fera par la violence. Après une phase guerrière, les anarchistes s'organiseront en véritable force politique. Le drapeau noir devient leur emblème. Les anarchistes joueront un rôle déterminant lors de la Commune de Paris de 1871, lors de la Révolution russe de 1917, les communistes en massacreront beaucoup, mais aussi lors de la guerre civile espagnole de 1936. On compte quelques tentatives de cité anarchiste en Amérique latine, notamment au Brésil, colonie Sicilia en 1891, au Paraguay, coopérative Cosme en 1896, au Mexique, République socialiste de Basse-Californie en 1911. En Italie, les résistants créeront une république anarchiste près de Carrare durant la guerre de 39-45. La plupart de ces mouvements ont été réprimés et dissous.
Texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Narration et adaptation d'Elisabeth Beck.
C'est clair, le navire a perdu le cap. La marchandise humaine est entraînée dans la dérape. Les médias manipulent la masse pour maintenir le mur en place. Dans une soirée mondaine mondiale, capitaine carnassier qui joue aux cartes notre capitale. À tribord, un sommet de glace a déchiré la carapace. Rapace! Embarque dans mon canot, les corses amis, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. quand on aura 100 ans.
C'est l'abandon qui nous mène
maintenant, bon.
C'est le courage qui nous mène
maintenant, bon.
C'est l'abandon qui nous mène
maintenant, bon.
C'est le courage qui nous mène maintenant.
SOS aux solidarités. Y'a un trou béant dedans la coque de ce gros bateau monté en toc. Des larmes synthétiques dans le brouillard chimique pour qu'on reste apathique à bord du Titanic. Si la loi du plus fort sévit, suivez-moi, je pense, donc je nuis. Je nuis. Embarque dans mon canot, décroche ami, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans, quand on aura 100 ans.
C'est l'abandon qui nous mène
maintenant, bon.
C'est le courage qui nous mène
maintenant, bon.
C'est l'abandon qui nous mène
maintenant, bon.
C'est le courage qui nous mène,
mène. En partant mon canot, décorce ami, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans, quand on aura 100 quand on aura 100 ans, quand on aura 100 ans, quand on aura, embarque dans mon canot, les corps amis, remontons le courant, il faut ramer de tout.
Dans les cavernes majestueuses, sous la maison de Maître Garibaldi, qui d'ailleurs avait disparu de mon environnement aussi prestement qu'un lapin effarouché, je rencontrai, au fond d'un labyrinthe étrange et obscur, une chimère appelée Cassière. Le chaudron brûlant des ombres caressait ma silhouette et dans les pas doubles de ma marche aveugle, Cassier et moi discutions à l'envi sans chercher où aller. Donc, si nous résumons bien, vous êtes apparu en même temps que mes doutes, au moment où tous mes sens perdaient leur repère au profit de l'unique sens de l'ouïe. Là où seulement, et là seulement, mon errance et mes pas prirent l'aspect d'un esprit et cet esprit c'était vous.
C'est somme toute assez abstrait, mais plutôt convaincant. De toute manière, je pense que vous auriez du mal à comprendre mieux avec mes indications.
Convenons-en, elles sont littéralement abstraites.
Oui, bien sûr, je n'aurais pas dit mieux. Cependant, ce que je vous donne là sont surtout des impressions, des souvenirs mêlés à la noirceur des lieux et des chimères, surtout des chimères.
Et surtout vous, en ce cas.
Je n'aime pas que vous m'appeliez chimère. J'ai un nom, vous savez. Et puis même, je suis autant humain que vous, même si je suis qu'une voix.
La question est plus délicate que cela, mais laissons. Je commence à entrevoir une légère lumière. Peut-être avançons-nous en direction de ces drôles de moisissures luminescentes, ou alors, ce que j'espère, nous avons trouvé une sortie.
Je devrais vous laisser, alors.
Comment ? Vous ne viendrez pas au jour pour profiter avec moi de notre nouvelle liberté ? Ou si ce n'est pas la sortie de la chaleur rassurante de la simple lumière ?
Non, pas vraiment. Je ne supporterai pas la vue de ce que je ne connais pas, je crois.
Vous avez peur du jour ?
Plus que cela, il me fait peur et me menace. Vous savez, je suis né des ombres et de vos doutes. Si les ombres disparaissent, il ne restera que vos doutes pour m'assurer une quelconque subsistance.
Peur de disparaître, donc.
Peur de la mort, plutôt.
Si cela peut vous rassurer, il sera rare dans ma vie que je n'ai pas de doutes. Et la lumière du jour descendra bien assez, tandis que mes certitudes remonteront, le plus souvent rehaussées par l'alcool, pour que vous puissiez vivre une éternité, ou du moins autant que mes pensées subsisteront.
Vraiment ? Pourriez-vous me dire avec certitude, au moins une, tandis que je suis protégé de l'annihilation par les ombres, que jamais vous n'en aurez ?
Pas vraiment. Mais je pense que je saurai me retenir. Et puis bon sang ! S'il est une chose que j'ai apprise au cours de mes aventures, c'est que jamais la mort ne frappe les gens hardis, et encore moins les chimères en votre genre. Vous avez l'aura des choses immortelles. Et pour être né des ombres et des doutes, il faut que vous ayez eu une force de vie bien supérieure à la moyenne. Allons, ce ne sera pas le jour et encore moins les certitudes qui vous détruiront, même si elles ont détruit plus d'un homme, mais vous n'en êtes pas. Mais si cela peut vous rassurer, déplacez-vous dans la poche de ma chemise. Il y aura assez d'ombre pour que vous soyez à l'abri, là. Quand vous vous sentirez apte à sortir, seulement vous vous confronterez à la lumière. Cela vous dit ?
Oui.
Dire que je fais tout cela sans doute pour une part déréglée de mon esprit. Au moins, je prends soin de moi.
Que dites-vous ?
Rien, partons. Nous nous dirigeâmes donc en direction des feux follets lointains, source de lumière et d'espoir.
Confort rassurant de la routine quotidienne, la sécurité enveloppante d'un environnement familier et la quiétude de la répétition.
Pauvre con.
Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Mais concernant la commémoration des événements importants de notre histoire, associée la plupart du temps à la mort de quelqu'un ou à un conflit meurtrier et barbare, et fêtée par quelques jours de congé, j'ai pensé que nous pourrions commémorer ce 5 novembre, une date qui malheureusement est tombée dans l'oubli, en prenant sur notre emploi du temps, en nous asseyant et en parlant, vous et moi. Il existe bien sûr certaines personnes qui refusent que nous en parlions.
Je dois réfléchir.
Je suppose même que des ordres ont déjà été hurlés dans des téléphones et que des hommes armés seront bientôt en route pour venir m'arrêter.
Le chancelier Suttler.
C'est la merde.
Et pourquoi ? Parce que si nos dirigeants communiquent avec nous par des volées de coups de matraque, ils savent que les mots sont des armes bien plus redoutables. Les mots nous donnent l'accès à la compréhension et à ceux à qui ils sont adressés, à l'établissement de la vérité. Et la vérité, comme vous le savez, n'est pas l'apanage de notre gouvernement actuel.
Monsieur, vous vouliez un studio à l'épreuve des balles et qui puisse couvrir la totalité de la ville.
Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Alors que vous aviez le droit de vous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée, aujourd'hui, le pouvoir vous surveille nuit et jour, contraignant votre conformisme et sollicitant votre soumission.
Il nous faut des caméras.
Comment sommes-nous arrivés là ? À qui la faute ? Il y en a bien certains qui sont plus responsables que d'autres, et ceux-là devront rendre des comptes. Mais pour être honnête, si vous cherchez les coupables, regardez-vous dans un miroir. Je connais vos raisons. Je sais que vous aviez peur, c'est légitime. La guerre, la terreur, la maladie. Devant une telle myriade de problèmes, la raison se fait rapidement altérer et nous perdons vite tout sens commun. La peur a guidé vos actions et dans votre détresse, vous vous êtes tourné vers le grand chancelier Adam Suttler. Il vous a promis l'ordre et vous a promis la paix. Et il n'exigeait en retour que votre silence et votre consentement docile.
Inspecteur, ils ont presque fini.
La nuit dernière, j'ai cherché à rompre ce silence. La nuit dernière, j'ai fait exploser l'Old Bailey pour que ce pays se souvienne de ce qu'il a oublié. Il y a plus de 400 ans, un citoyen remarquable a voulu graver à jamais la date du 5 novembre dans nos mémoires. Son intention était de rappeler au monde que l'équité, la justice et la liberté n'étaient pas que des mots, mais les pierres angulaires d'une société. Donc, si vous ne souffrez de rien, si les crimes de ce gouvernement vous ont laissé indifférent jusqu'à ce jour, alors vous seriez en droit de refuser toute commémoration en date du 5 novembre. Mais si, par contre, vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, et si vous désirez ce que je désire, alors je vous demande de vous joindre à moi dans un an, jour pour jour, devant les portes du Parlement. Et alors, tous ensemble, nous leur ferons vivre un 5 novembre que ni le monde ni eux ne pourront oublier.
C'était un extrait de V for Vendetta. Toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu extrait de Martin Luther King, de multiples façons originales de résister, la liberté d'expression au temps de Badawi, et la musique de Berrurier Noir avec Salut à toi, mes aïeux avec Qui nous mène. si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. À venir dans la deuxième partie, les femmes, la stratégie d'Alinsky, un texte sur la tenue de réunion. Sans oublier la musique de Jacques Dutronc avec L'Opportuniste et de Richard Desjardins avec Hey, le screw! Texte tiré de la préface du livre « Femen » de Galia Ackermann.
Dès le printemps 2008, leurs actions, d'abord innocentes et enfantines, sont costumées et pittoresques. Elles se cherchent. Contre quoi protester? Comment trouver des cibles? Au cours de l'un de leurs brainstorms, elles trouvent leur premier grand sujet. L'Ukraine n'est pas un bordel. Elles s'élèvent à la fois contre l'industrie du sexe qui fleurit dans le pays, chapeautée par le pouvoir, et contre la perception qu'ont les Occidentaux des Ukrainiennes, des Natacha, prêtes à se livrer à un prince charmant pour une bouchée de pain ou sur la promesse d'une Dolce Vita à l'étranger. Au cours de ce combat qui connaît des dizaines d'actions, le mouvement se structure et prend le nom de Femen. Les Femen, qui ne veulent pas se limiter aux questions traditionnellement perçues comme féminines, décident de se mêler au combat politique. Elles prennent alors une position qui les desservira beaucoup auprès d'une partie de l'opinion publique ukrainienne en choisissant de n'être ni pour les bleus de Yanukovych, qu'elles considèrent comme une marionnette du grand capital oligarchique de l'Est ukrainien, ni pour le camp orange, partisan de Yushchenko et de Yulia Tymoshenko, à cause de leur fiasco politique et économique. Malgré ces failles, la révolution orange avait apporté des libertés, alors que le régime qui a pris la relève devient de plus en plus répressif. C'est à partir de cette période que les Femen se radicalisent politiquement. Le nouvel ennemi désigné est la dictature. La police, la justice et le SBU, service de sécurité ukrainien, issu du KGB soviétique, les traquent. Elles connaissent leurs premiers tribunaux, leurs premiers séjours en prison et leurs premiers interrogatoires par des agents du SBU. Ce qui est extraordinaire chez les Femen et qui les rend très particulières dans tout l'espace post-soviétique, c'est leur ouverture sur le monde extérieur. Ces filles réagissent à la condition féminine ou à la dérive autocratique en Ukraine, mais elles sont également solidaires du combat démocratique des autres. Après leurs actions de protestation contre le régime Poutine, qui n'ont d'ailleurs pas été du goût de l'opposition russe car celle-ci, trop refermée sur elle-même, n'a pas apprécié la témérité des petites Ukrainiennes, elles décident de s'attaquer au régime d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse considéré comme le dernier dictateur d'Europe. Leur périple biélorusse en décembre 2011, où elles tombent dans un guet-apens préparé avec soin par le sinistre KGB local et qui aurait pu se terminer en véritable tragédie, est probablement leur expérience la plus terrible. En 2-3 ans, les jeunes filles deviennent des combattantes aguerries qui bravent, avec leurs corps nus couverts de slogans caustiques, des policiers armés de matraques. Reste leur anticléricalisme. Les Femen sont des athées convaincus, qui considèrent que toute religion opprime la femme. C'est historiquement vrai, mais les différents cultes n'ont pas évolué de la même façon. Les protestants et les juifs libéraux ont parcouru un long chemin pour donner à la femme une place égale à celle de l'homme. L'église catholique, jadis celle des croisades et des bûchers de l'inquisition, est également en train d'évoluer, lentement mais sûrement. En revanche, l'église orthodoxe russe, fidèle à la tradition byzantine et tsariste, est devenue le pilier du régime Poutine. Ce pouvoir qui écrase depuis des années l'opposition politique et la presse libre, et qui a définitivement perdu sa légitimité lors des dernières législatives entachées de fraudes massives, s'appuie plus que jamais sur l'église qui, de son côté, en profite pour étendre son emprise, y compris en Ukraine. Bien au-delà de leur coup d'éclat, l'aventure de ces quatre jeunes ukrainiennes est digne d'être connue et comprise.
Narration et adaptation d'Aurélie Suberchico.
En 1970, Saul Alinsky, agitateur hippie et figure majeure du mouvement étudiant états-unien, publia un manuel énonçant 10 règles pratiques pour mener à bien une révolution. 1. Le pouvoir n'est pas ce que vous possédez, mais ce que votre adversaire s'imagine que vous possédez. 2. sortez du champ d'expérience de votre adversaire. Inventez de nouveaux terrains de lutte dont il ignore encore le mode de conduite. Combattez l'ennemi avec ses propres armes. 3. Utilisez pour l'attaquer les éléments de son propre code de référence. 4. Lors d'une confrontation verbale, l'humour constitue l'arme la plus efficace. Si l'on parvient à ridiculiser l'adversaire, ou mieux, à contraindre l'adversaire à se ridiculiser lui-même, il lui devient très difficile de remonter au créneau. 5. Une tactique ne doit jamais devenir une routine, surtout lorsqu'elle fonctionne. Répétez-la à plusieurs reprises pour en mesurer la force et les limites, puis changez-en, quitte à adopter une tactique exactement inverse. 6. Maintenez l'adversaire sur la défensive. Il ne doit jamais se dire « Bon, je dispose d'un répit, profitons-en pour nous réorganiser. » On doit utiliser tous les éléments extérieurs possibles pour maintenir la pression. 7. Ne jamais bluffer si on n'a pas les moyens de passer aux actes. Sinon, on perd toute crédibilité. 8. Les handicaps apparents peuvent se transformer en les meilleurs des atouts. Il faut revendiquer chacune de ces spécificités comme une force et non comme une faiblesse. 9. Focaliser la cible et ne pas en changer pendant la bataille. Il faut que cette cible soit la plus petite, la plus précise et la plus représentative possible. 10. Si on obtient la victoire, il faut être capable de l'assumer et d'occuper le terrain. Si l'on n'a rien à proposer de nouveau, il ne sert à rien de renverser le pouvoir en place.
Un texte de Bernard Werber tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Narration et adaptation de Martin Junior Pelletier. Afin de maximiser l'efficacité de vos réunions sans pour autant perdre la qualité de communication et d'échange entre les participants, il faut quelquefois revoir nos méthodes traditionnelles de convocation et de fonctionnement de celles-ci. Parmi les facteurs du peu d'enthousiasme pour les réunions, soulignons l'ennui, la durée trop longue, l'inconfort dû à la chaleur, au manque d'air, au bruit, au silence, le peu de temps de participation avant de prendre une décision, le trop de temps accordé aux émotions et réflexions plutôt qu'à la prise de décision, la mauvaise tenue des registres, la non-ponctualité des participants. Jeff Berkowitz, orateur et animateur hors pair, suggère de faire de chaque réunion une fête, indiquant par le fait même les éléments apportant le succès à toute réunion. D'abord, avoir l'occasion de socialiser autour d'un repas ou de chanter, danser, se raconter des histoires pour alléger l'atmosphère tout en laissant la place à des relations amicales plutôt que d'affaires, où tous sont sur les dents et méfiants. Pourquoi faire une réunion à l'intérieur alors qu'il fait 30 degrés et qu'on est près d'un lac? Puis, ramener les participants au but de la rencontre par la présentation des différents points sur lesquels on doit se prononcer. Finalement, respecter les règles de prise de décision en groupe que l'on s'est fixées antérieurement afin de ne pas insécuriser les participants et prendre la décision. Celle-ci peut aussi bien être de reporter ce sujet à une réunion ultérieure afin que chacun puisse mieux y réfléchir ou dans le but d'obtenir un complément d'information. Bien évidemment, toute méthode de tenue de réunion devrait être adoptée par les participants. Ainsi, outre déterminer le lieu, l'horaire et le contenu de la réunion, il faudrait aussi déterminer les rôles des participants. Puisque dans nos réseaux, on tente de sortir des sentiers battus, des formes hiérarchiques des organisations, il va de soi que nous suggérons que chacun se reconnaisse des facultés de leader ou les développe à tour de rôle, assisté d'un partenaire qui pourrait gérer le temps et le lieu. De plus, si chacun sait quelle partie de la réunion il va animer, il se préparera donc en conséquence. Dans chaque réunion, il y a plusieurs phases. La phase préparatoire, l'échange d'informations et la période de questions, le partage des émotions, des sentis, des perceptions face à ces données et leur accueil, le reliement vers des idées communes, la présentation d'alternatives, la discussion des pour et des contre, les différentes solutions, la tentative de compromis, le consensus ou le report du sujet à une autre réunion, et enfin, la clôture. Il est important que chaque participant connaisse ces différentes phases pour reconnaître en tout temps à quelle phase de la réunion il en est, sinon c'est à l'animateur de le ramener au rythme des autres participants. Ainsi, en ramenant le participant au but de la réunion, les états d'âme et émotions qui n'ont pas trait au sujet seront reportés après la réunion tout en laissant quelques instants aux participants hors sujet de pouvoir s'exprimer. Quelquefois, ce simple procédé met en lumière un conflit interpersonnel et inconscient des participants qu'ils seront invités à régler en dehors de la réunion. La ponctualité du début des réunions et de leur clôture est importante afin de conserver l'enthousiasme des participants pour toute réunion future. Si celle-ci devait se prolonger, il devrait y avoir un consensus sur la possibilité et la durée de la prolongation. Lorsqu'il y a des visiteurs ou des consultants invités, leur rôle doit être clairement défini et les participants peuvent demander leur retrait lors de la prise de décision afin d'éviter toute ingérence. Lors de discussions proprement dites, les participants devront être invités à respecter le droit de parole de chacun. Un objet pourrait être utilisé afin de signaler qui a le droit de parole, par exemple un bâton de parole ou tout autre objet qui se trouve dans la pièce. Avec tact, c'est également à l'animateur d'aviser les gens que la discussion devrait prendre fin bientôt en résumant les points sur lesquels il y a consensus et ceux sur lesquels il n'y en a pas. Déterminer la période de discussion qui reste et aviser le gardien du temps lorsqu'il sera temps de mettre fin aux discussions. L'animateur fera un compte-rendu verbal des décisions prises et de celles reportées tout en demandant aux participants si ce compte-rendu fait constat réel de la réunion, puis il clôturera celle-ci. En conclusion, rappelez-vous que les gens doivent avoir le goût d'y participer et de se rencontrer. Dès lors, il faudra quelquefois user d'ingéniosité afin de faire coïncider une réunion et une activité sociale ou une présentation audiovisuelle, recevoir un invité, débuter la réunion par un jeu visant à détendre l'atmosphère, tout particulièrement si l'ordre du jour comporte un sujet difficile. Chaque membre du groupe est responsable de la bonne synergie du groupe. Si vous sentez des tensions ou des froids entre des individus, sans les prendre en charge, il serait sage de les inciter à discuter de leurs différends avant la rencontre et leur offrir votre support comme médiateur. C'était un texte de Carole Ricard tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration de Philippe Laramé.
Rebelles, communiquons aujourd'hui la présente déclaration à Sa Majesté l'Empereur Bush et à toutes les espèces intelligentes de la galaxie, afin de faire mieux connaître les buts et objectifs poursuivis par notre mouvement.
Nous reconnaissons sans équivoque l'importance et la nécessité de l'institution d'un gouvernement galactique. Nous acceptons l'obligation pour chacun de se soumettre à ce gouvernement en renonçant à certains droits et privilèges afin de préserver la paix, la prospérité et le bonheur de tous.
Nous sommes convaincus que l'Empire galactique a bafoué, de façon volontaire et malveillante, les droits des citoyens libres de la galaxie. Nous avons donc décidé d'exercer le droit inaliénable de nous autoriser à le renverser.
Nous n'avons pas pris cette décision à la légère. Un gouvernement établi depuis longtemps ne devrait jamais être changé pour des raisons mineures ou simplement conjoncturelles. Toutefois, quand un tel gouvernement n'a pas cessé de commettre des abus, des atrocités et d'autres actes moralement répréhensibles, exprimant par son comportement une volonté claire de réduire en esclavage tous les êtres libres, il est de notre droit et de notre devoir de le renverser.
L'histoire de l'actuel Empire galactique regorge d'exactions commises à l'encontre de ses membres dans l'intention évidente de faire de vous, empereur, le despote absolu de la galaxie. Vous avez dissous le Sénat qui était la voix du peuple. Vous avez mené une politique ouvertement raciste et organisé le génocide de toutes les populations autochtones et spirituelles de la galaxie.
Vous avez renversé des dirigeants planétaires régulièrement élus afin de les remplacer par des pantins et des gouverneurs de votre choix. Vous avez institué de nouvelles taxes sans l'accord des assujettis. Vous avez assassiné et emprisonné sans procès des millions de personnes. Vous vous êtes emparé illégalement de terres et de biens privés. Vous avez, inconsidérément et sans nécessité, développé votre armée dans le seul but d'opprimer vos sujets.
Vous avez coupé tous les arbres, pollué les cours d'eau de toutes les planètes connues. Vous avez massacré la plupart des animaux, réduit en esclavage les populations pacifiques et pollué génétiquement les réserves alimentaires des opprimés.
En conséquence de quoi, nous, membres de l'Alliance Rebelle, agissant au nom des êtres libres de la galaxie dont nous sommes les représentants, vous annonçons solennellement nos intentions. Nous vous combattrons, vous et vos forces, par tous les moyens à notre disposition. Nous refuserons toute loi impériale contraire aux droits élémentaires des êtres libres. Nous vous destituerons et anéantirons l'Empire galactique. Nous rendrons leur liberté à tous les habitants de la galaxie.
Pour atteindre ces objectifs, nous sommes prêts à faire don de nos biens, de nos honneurs et de nos vies.
C'était une galerie moderne, aux murs blancs et brillants. Sur les toiles s'étalait une sorte de dégradé de bleu, toujours le même, travaillé avec application, à l'huile, à l'eau et au pastel.
C'est superbe, tout simplement superbe,
dit la jeune fille qui était, d'après les souvenirs de Louis, critique artistique dans un canard quelconque. Il avala une deuxième gorgée de champagne. Vous avez raison, c'est magnifique, sortant son sourire le plus ravageur. Savez-vous combien de temps il faudrait, sur Photoshop, pour réussir un dégradé pareil?
Non!
30 secondes. Il s'éloigna vers le buffet, laissant la jeune fille éberluée. L'organisatrice du vernissage, Yvonne Lien, une femme excentrique d'une cinquantaine d'années, le happa. Elle sentait en lui l'homme fortuné et ne comptait pas le laisser s'échapper.
Que je suis heureuse que vous soyez là! Vous savez, j'ai enfin réussi à avoir l'accord. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à Enfants sans frontières.
Louis leva un sourcil intéressé. Elle continua.
Je compte particulièrement sur ces deux chefs-d'œuvre là-bas, dégradés en ovale. Ils sont beaux, n'est-ce pas? À première vue, on les croirait identiques, mais pas du tout. Je compte les vendre 300 000 $ pièce.
Le temps passa. Louis se promenait, appréciant le buffet, étudiant les tableaux. Vers minuit, un cri s'éleva.
Un tableau! On a volé un tableau!
Un tableau!
On a volé un tableau!
Un des deux dégradés en ovale manquait.
Oh mon Dieu! Un tableau! On a volé un tableau!
On bloqua les entrées, quelqu'un prévint la police et les invités furent fouillés consciencieusement. On ne trouva rien. De l'avis de tous, le voleur devait être déjà très loin. Louis s'approcha d'Yvonne qui était effondrée sur un fauteuil et lui tendit une main secourable. Je suis vraiment désolé, mais ne perdez pas espoir. La police, de nos jours, est vraiment très efficace. Ils le retrouveront. Je dois maintenant partir, mais avant, si cela ne vous trouble pas, je désirerais acquérir le deuxième dégradé en ovale. D'un bond, Yvonne fut debout, son plus beau sourire aux lèvres.
Bien sûr, vous ne le regretterez pas.
Louis s'occupa lui-même de porter son achat, dans le cadre duquel il avait glissé la toile subtilisée, dans le coffre de sa Mercedes. Il paya avec un chèque en bois. Conclut l'épisode 48 de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Marie-Claude Tardy, Jean-Baptiste Gardarin, Aurélie Superchico, Martin-Junior Pelletier, Elisabeth Daigle, Maude Campeau, Guillaume Lambe, Florence Morin et Marie-Claude Journeau. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.
T'as pris ma photo, pris mon numéro, oui, j'ai ton portrait, l'oublierai jamais. Je veux sortir mon hostie, sortir, m'entends-tu? Ton steak y est pourri. Va sortir parce que tu pues. Hey, le screw, screw you, le screw.